Radio Campus Bruxelles 92.1.
Bonsoir à tous et bienvenue à la Conspiration des Planches sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles vous accueille entre 19h et 19h30 le mercredi pour faire un petit peu le tour de l'actualité scénique à Bruxelles. Rediffusion également le jeudi à 13h30. À mes côtés pour faire ce petit tour des scènes bruxelloises, Elisabeth et Sophie en studio.
Bonjour, bonsoir.
Salut Nico.
Salut à toutes les deux. Et par téléphone, on a Catherine également. Bonsoir Catherine.
Bonjour.
Alors, au menu de cette émission, nous irons voir la nouvelle création du Théâtre de Poche. Sophia Betz s'empare une nouvelle fois de Von Mayenburg pour Perplexe. On verra si cette pièce vous a laissé perplexe, mesdames. Et puis ensemble, nous irons aussi du côté de la comédie Claude Voltaire pour un texte de Philippe Behaït et de Stéphanie Manger, De mémoire de papillon. On passera en revue aussi les spectacles Alice et Homme de terre, des petites formes qui sont en ce moment à l'Atelier 210 et à la Samaritaine. Et on fera aussi un rapide débrief des prix de la critique. C'était semaine de fête dans le milieu des arts de la scène. On reviendra sur les points importants du palmarès avec Catherine, notamment en fin d'émission. Mais je me tourne tout de suite d'ailleurs vers Catherine Macrel pour ce spectacle Perplexe au Théâtre de Poche. Von Mayenburg, des textes coup de poing. Souvent, est-ce que c'était le cas encore cette fois-ci, Catherine?
Oui, on peut dire que c'est un texte coup de poing. En tout cas, c'est un texte qui désoriente, comme le laisse deviner son titre, Perplexe. Ça laisse en effet perplexe. Alors, il faut prévenir tout de suite ceux qui aiment le théâtre bien carré, avec une intrigue bien définie, un début, un milieu, une fin, où on comprend tout. Cette pièce n'est pas absolument pas pour eux. C'est une pièce complètement absurde, en fait, qui interroge les dilemmes existentiels des personnages. C'est un petit peu à mi-chemin entre Beckett et Pirandello, mis à la sauce contemporaine. Donc, au début, ça commence de manière très classique, avec un couple surpris par une panne de courant qui commence à se disputer, et puis qui sont interrompus par un autre couple, qu'on prend d'abord pour des visiteurs sans gêne, et puis finalement on se dit mais qui est dans sa maison ici, est-ce que c'est le premier couple, le deuxième couple, tout ça s'en mêle allègrement. Ça va être comme ça tout au long de la pièce. Il y a quatre comédiens, mais qui vont s'échanger à tour de bras les rôles dans des identités comme ça interchangeables, alors mari, femme, amant, parent, enfant.
Tout y passe, mais finalement rien n'y laisse, non?
C'est-à-dire que c'est ce genre de pièce très difficile à expliquer, parce qu'il n'y a pas de fil continu. Donc il y a plein de petites scénettes avec des couples mondains, une jeune fille au père qui commence par s'occuper de l'enfant mais qui va finir par s'occuper du père, un ado hystérique qui traite ses parents de nazis et qui finit lui-même en uniforme de SS. Puis tout à coup, une soirée déguisée où on voit débouler un chef viking et un élan homosexuel. Voilà, c'est tout ça est un peu fou. Ça va crescendo dans la folie. On croise un gars qui fait du ski de fond sur la moquette, quelqu'un qui est déguisé en volcan en éruption, des déclarations en latin, des paquets mystérieux. C'est absurde, mais c'est fait exprès, en fait. Mmh. Ça aurait pu s'intituler « Qui suis-je, dans quelle étagère ?» Puisque ces personnages se demandent un petit peu s'ils existent vraiment. D'ailleurs, à un moment donné, ils vont essayer de casser le quatrième mur et de sentir respirer les gens qui sont là pour les faire exister, c'est-à-dire nous, les spectateurs, parce que sans nous, eux, est-ce qu'ils existent vraiment ? Voilà, on est dans une philosophie existentielle fort tirée par les cheveux, mais emmenée par des comédiens que moi j'ai trouvé épatants, mais j'aimerais avoir l'avis de Sophie.
Mais oui, oui, on en parlait juste avant l'émission avec Elisabeth et en effet les comédiens sont juste excellents.
On va les citer.
Voilà, donc on avait surtout souligné le jeu de Johan Blanc. Mm-hmm. Alors il y a Estelle Franco, Émilie Maquet, Fabien Magri. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, les personnages dans le spectacle portent les noms des comédiens. Mais ça, on ne peut pas trop en dire, peut-être.
Elisabeth.
Finalement, comme ça passe un peu tout et passe un peu à la moulinette de l'absurde, mais je trouve qu'il y avait quand même aussi, enfin, ou qu'il y a surtout dans ce spectacle, quand même une belle cohérence dans l'incohérence. Parce que finalement, on s'habitue à ce rythme, on s'habitue à perdre pied, mais on reste dans un univers qui est aussi bien unifié par la scénographie. Donc, on est perdu sans être perdu. On sent que ça va gratter du côté de la condition humaine. Qu'est-ce que c'est effectivement d'exister? Mais c'est pas prise de tête du tout. Et donc finalement, on peut aussi le prendre juste comme un bon divertissement.
Est-ce que c'est, donc vous dites que c'est absurde, mais bien est-ce sûr. Que c'est pessimiste, une vision noire de l'humanité, de nos identités?
Ben, finalement, c'est un peu tout glisse comme ça. Et alors, on trébuche, on se relève, on trébuche, on se relève, on passe à autre chose. On ne s'arrête pas sur les choses puisque la scène, elle est déjà partie. Ouais. On est à la suivante, mais avec la continuité de la précédente, puisqu'on est dans le même espace, on est avec les mêmes comédiens et avec les mêmes costumes, sauf les déguisements, enfin, des choses comme ça. Donc, il y a quand même quelque part quelque chose qui fait que la mayonnaise prend, mais effectivement, elle prend parce que l'interprétation, ça donne lieu à de belles joutes et de beaux moments d'interprétation. Et si on aime le théâtre, ben on plonge là-dedans et on oublie le reste.
Catherine, la mise en scène de Sophia Betz joue aussi à fond la carte de l'absurde ?
Oui, moi je trouve qu'elle a réalisé un joyeux bazar, en fait. Il y a une douce folie, je suis tout à fait d'accord avec ce que disent Elisabeth et Sophie. C'est cohérent dans l'incohérence. C'est une folie maîtrisée. Et donc, elle ne nous perd pas en chemin. Même si on aurait pu devoir s'accrocher. Finalement, c'est vrai que ça en est curieusement divertissant.
Mm-hmm. Et c'est au niveau scénographie, il y a quelque chose de particulier puisqu'il y a cette succession de scènes. Est-ce que c'est surtout sur les lumières?
Il y a quand même une couleur qui, normalement, n'a pas sa place au théâtre puisqu'elle est vraiment on est dans le vert. Donc là, déjà, c'est quand même particulier. On n'a pas l'habitude de voir ça, mais le vert est très, très présent. Et le vert est une couleur ambiguë, c'est une couleur positive et négative. Donc, on retrouve toujours cette bipolarité comme ça. Donc, peut-être que c'est une pièce bipolaire.
Voilà. Ce sera la conclusion, peut-être, si quelqu'un a encore à ajouter, Catherine.
Non, bipolaire, pour moi, c'est le mot parfait.
C'est à voir. Donc, Perplexe de Marius von Mayenburg, mise en scène de Sophia Betz, jusqu'au 8 novembre, du côté du Théâtre de Poche, 3xw.poche.be. Et si vous êtes attentif aux émissions de Radio Campus, eh bien sachez qu'il y a des places à gagner dans nos agendas culturels. Place à tout autre chose maintenant, du côté de la comédie Claude Voltaire. C'est vrai que c'est un théâtre où on ne va pas souvent, ici à La Conspiration.
Mea culpa,
oui. Et voilà, on y est allé cette fois-ci, parce qu'il y avait Philippe Behate, notamment au générique du spectacle de Mémoire de Papillon. Mais je crois que c'est aussi une histoire très personnelle par rapport à un habitué de la comédie Voltaire, c'est Michel de Warzé, et qui nous transporte au Congo.
Oui, c'est ça qui nous transporte à la fois dans l'espace, mais aussi dans le temps, puisque en fait, on est carrément dans les années 60. On est même 61. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'entrée de jeu, on a vraiment un développement parallèle du spectacle. On a d'une part un malade, il y a la garde malade qui déboule, et on comprend assez rapidement qu'il a des soucis de mémoire, Alzheimer, etc. Et puis, de l'autre côté du plateau, on a deux comédiens africains. Et on comprend très bien que là, il y en a un qui est prisonnier et l'autre qui est le gardien, puisqu'il a un fusil. Parce que là, ça va. Et le début, la pièce est vraiment construite en parallèle et avec vraiment quelque chose de très, très bien ciselé, parce que parfois, ça se répond à un mot. Il y a un mot qui vient dans les deux dialogues, etc. Donc jusque-là, on avance, jusqu'au moment où on s'enlise un petit peu, ou en tout cas, où moi, j'ai quand même eu un peu décroché. Parce qu'à un moment donné, la garde malade, a un comportement qui s'éloigne d'un comportement qu'on peut attendre d'une garde malade. Elle menace son patient avec un fusil, elle cadenasse tout. Alors, est-ce que c'est l'Alzheimer? Est-ce que c'est pour le protéger? Est-ce qu'elle veut vraiment? Et alors, de fil en aiguille, on finit par comprendre qu'elle veut lui soudirer quelque chose. Mais c'est un Alzheimer, on veut lui soutirer quelque chose. Moi, j'ai commencé à décrocher là parce que la mémoire, quelqu'un qui perd la mémoire, on vraiment vouloir aller lui chercher...
Là, c'est plus sur le réalisme de la situation.
Oui, ou quelque chose comme ça. Et puis, de l'autre côté, ça commence... Et puis, le parallélisme disparaît. On est toujours en alternance en Afrique et en Belgique. On comprend évidemment que le personnage en question a un passé colonial, qu'il était majeur, etc. Mais les rapports se tendent vraiment avec la guerre malade. On retrouve des lettres. Alors, on a évidemment la puce à l'oreille. Et puis, c'est l'entracte. Et puis arrive la deuxième partie qui est encore d'un autre tonneau, puisque là, on a aussi compris au fil du temps que le prisonnier, c'est Lumumba. Et donc, on arrive dans cette partie où les personnages vont... leurs destins vont se croiser, enfin, ou se sont croisés dans le passé. Et puis il y a la fin de l'intrigue, je ne vais pas vous la dévoiler non plus. Mais voilà. Et la fin est très centrée sur Lumumba. Et est très très touchante en fait, parce que c'est quand même un magnifique Candide, c'est un magnifique idéaliste comme on n'en a plus, quoi. Il croyait à cette indépendance avec des paillettes dans les yeux, on n'a plus l'habitude de ça. Mais voilà, mais j'ai trouvé que cette pièce avait une vraie générosité de propos, parce que c'est aussi une pièce sur la culpabilité du colonialisme, enfin qui est quelque chose comme...
C'est ça que j'allais demander, est-ce qu'il y a vraiment un propos vraiment politique, sévère, un regard sur le passé aussi?
Mais non, parce qu'il y a ce développement de l'intrigue et cette structure à rebours de la pièce qui, je trouve, vient un petit peu occulter cette thématique. C'est pas qu'elle n'est pas... qu'elle n'est pas présente, parce qu'elle est là, dans l'émotion aussi. Mm-hmm. On comprend très bien cet embarras qu'on a de ce passé colonial. On a un embarras comme ça. Enfin, c'est quelque chose que moi, j'ai pu ressentir aussi. Donc ça, c'est là. Mais c'est cette intrigue qui me sent... Enfin, c'est fort exigeant d'aller croire qu'on va exiger un souvenir de quelqu'un atteint d'Alzheimer. Moi, j'arrive pas, parce que ça me semble antithétique quelque part. Donc, j'ai l'impression qu'on a mis en branle comme ça une intrigue très importante pour dire finalement des choses qui auraient gagné à être dites aussi simplement. D'autant plus que l'interprétation est vraiment très chouette. De Warsey est vraiment chouette là-dedans. Il est assez touchant dans son personnage un peu bourru. Stéphanie Mouriot, l'attaque, elle y va. Et les deux comédiens africains, j'ai pas retenu le nom et je m'en excuse, mais sont aussi magnifiques.
C'est Vukoma et Virgile Mfouilou.
Voilà, alors il y en a un, ils ne sont pas congolais, il y en a un qui vient du Mali, si je ne m'abuse, et l'autre du Congo-Brazzaville. Mais donc, ils portent cette histoire. Mais c'est exigeant pour le spectateur, parce que 1961, c'est loin. Ça veut dire que pour en avoir une mémoire réelle, il faut avoir 65 ans.
Dans la mise en scène, il y a des choix de voyage dans le temps ou...
Non, on est toujours sur ce plateau qui est unique, avec d'un côté la partie en Belgique, on va dire, et de l'autre côté la partie en Afrique. On comprend très rapidement que c'est un espace qui est dans la mémoire, un espace imaginaire. Il y a des scènes d'hallucination qui viennent aussi là-dedans. Donc ça m'a fait un effet un peu... où est le propos, quand est-ce qu'il arrive? Et encore une fois, ça m'a semblé un peu dommage, parce qu'il est là. Il est là avec une très très belle interprétation. La scénographie permet des passages faciles de l'un à l'autre, mais a aussi un peu des étonnements, parce que ce prisonnier africain, il est attaché à un radiateur. Alors, bon, pourquoi est-ce qu'il est attaché à un radiateur? Je sais bien qu'on est dans un espace imaginaire, etc., mais peut-être qu'on aurait pu tout simplement l'attacher à autre chose, je ne sais pas quoi, mais ça veut dire, c'est exigeant par rapport à ça. Voilà, donc j'ai une petite réserve, mais en même temps, une belle générosité, un très très beau sujet. Parce que ça se termine évidemment sur l'évocation de l'assassinat de Lumumba, qui est quelque chose... Moi, j'ai pas le fin mot de l'histoire. On comprend qu'il y a des Belges qui étaient impliqués, mais exactement de quelle manière, ça, c'est pas tout à fait clair. Mais on a ce personnage de Lumumba et cet idéalisme comme ça qui est d'une magnifique fraîcheur aussi. Et voilà, donc... Je pensais encore à des pièces qui ça fonctionne bien au théâtre, des dialogues imaginaires comme ça avec des personnages connus. On a vu Freud, on a vu Marx, on a vu Churchill. Enfin, c'est des choses qui sont faciles, mais avec des intrigues plus directes. Mm-hmm. Et voilà. Mais c'est mon point de vue.
De Mémoire de papillon de Philippe Bey et Stéphanie Manger sur une idée de Michel de Warzé à découvrir donc jusqu'au 25 octobre du côté de la Comédie Claude Voltaire. Toutes les informations sur www.comedievoltaire.be.
La conspiration.
Nous sommes de retour dans la conspiration des planches pour parler. C'est pas grave, j'ouvre les micros pendant que nos amis s'y reprennent un peu. Ça breuve un petit peu, mais voilà, j'ai coupé le micro, c'est plus à l'aise comme ça. On va parler d'Alice maintenant, avec évidemment le conte de Lewis Carroll, conte sur l'absurde aussi, la folie, et qui s'est retrouvé bien sûr la scène de l'atelier 210 actuellement. En fait, c'est une création qui date déjà, c'était une création de fin d'études de l'IAD, si je ne m'abuse, et c'est une mise en scène du jeune Ahmed Ayed, qui a revisité un petit peu le conte de Lewis Carroll. Il offre une vision assez sombre finalement de ce conte qui nous plonge dès le départ dans l'obscurité avec quelques ampoules qui ont du mal à s'allumer et on découvre Alice en effet perdue dès le départ et on va comprendre que le traitement choisi par Ahmed Ayed va être de cette quête d'identité et tout le voyage d'Alice est un voyage existentiel en disant qui suis-je. Eh bien, je suis Alice. Alors, évidemment, elle va rencontrer tous les personnages que l'on connaît, le chapelier Tocquet, le lièvre de Mars, la chenille, qui d'autre
encore ? Les jumeaux,
la reine de cœur.
Et
la reine de cœur, évidemment. Dans ce spectacle qui... vaut surtout pour son choix de scénographie, je trouve, surtout par ce côté sombre, vraiment lugubre. On est dans une ambiance un peu glauque.
Complètement glauque, ça. Complètement angoissant
voilà.
Aussi.
Voilà. Catherine, tu étais là aussi lorsque nous avons été voir ce spectacle. C'est surtout un spectacle où la scénographie compte et malheureusement, moi je trouvais qu'il manquait parfois de metteur en scène, de directeur d'acteur, parce que c'est un spectacle relativement peut-être muet ou avec quelques petites phrases mais qui ne sont pas majeures et c'est surtout un théâtre d'ambiance.
Oui, ça manque terriblement de propos en fait, oui. Ça manque de consistance au niveau du texte mais c'est plein de trouvailles au niveau de la scénographie, je suis tout à fait d'accord. Donc, ça commence dans le noir total d'ailleurs, hein. Ça commence et on voit rien, on essaie de deviner ce qui se passe, en plus c'est plein de fumigènes et tout ça installe une ambiance très mystérieuse, très réussie je trouve. Et puis tout au long de la pièce, il y a comme ça des bonnes idées dans les costumes.
La chenille par exemple, c'est assez bien trouvé comment ils font la chenille.
Oui, une chenille qui à un moment donné accouche, ça fait quelque peur. Donc oui, c'est porté par des comédiens qui utilisent leur corps, qui essaient d'installer une ambiance. On est dans la même thématique que Perplexe finalement, donc c'est Alice qui est à la recherche d'elle-même, qui veut savoir qui elle est, ce qu'elle est. Mais là, il fallait peut-être creuser un petit peu, ou alors le faire complètement sans parole, faire quelque chose d'exclusivement visuel. Mais là, ça aussi entre les deux et ça se cherche pour le coup.
On sent vraiment qu'il y a en effet travail sur le corps, travail sur la scéno, mais on fait confiance peut-être à Ahmed Ayed pour voir si plus tard il pourra un peu creuser ses filons. En tout cas, Alice, cette plongée sombre dans les abysses du pays des merveilles, c'est à voir jusqu'au 25 octobre du côté de l'atelier 210. Et pour ceux qui nous écoutent à distance, sachez également que ce sera présent au festival Bizarre à Charleroi. Un spectacle finalement qui, comme on le disait, de fin d'études, de jeunes comédiens. On aurait évidemment donc aimé pouvoir entendre un peu plus ces comédiens. Mais en tout cas, joli travail sur le corps et sur la scénographie. www.atelier210.be. Je vous emmène aussi directement du côté de La Samaritaine. La Samaritaine qui accueillait le troisième spectacle de Pierre Webern. Pierre Webern qu'on avait vu seul en scène dans Manneque. Elisabeth, tu t'en rappelles?
Oui.
Avec, je me rappelle un discours assez mitigé sur ce spectacle. Catherine et moi, on avait vu Les pavés du parvis. Là, il était en duo et il observait un petit peu ce joli monde bobo autour du... à la fois très, très mélangé, très diversifié autour des pavés du parvis. C'était vraiment un bel exercice d'observation participante, on peut dire un petit peu. Et ici, il continue un peu cette observation de ces gens qui vivent autour de lui. Bien qu'ici, Olivier Blin, le patron de la charge du rhinocéros qui produit ce spectacle... Et et qui a demandé à Pierre Webern d'aller s'intéresser à l'agriculture, au monde agricole. Alors pour lui, c'était vraiment comme aller à l'autre bout de la terre, parce que lui, citadin et homosexuel également, parce que c'est pas anodin que je dis ça, puisque c'est utilisé dans le spectacle, cette carte-là, avec les barrières et des préjugés qui se posent entre les deux mondes. Et Pierre Webern dit, bah, ok, alors je vais aller à la rencontre de ces gens-là. Et il nous pose comme ça, avec son habitude d'imitation des personnages qu'il rencontre, trois agriculteurs. Alors, il y a un industriel high-tech qui vient avec sa résine de chicorée qu'il est en train d'extraire. Donc, c'est de l'agrochimie, presque. Puis, il y a un agriculteur tout à fait normal qui a repris la ferme de ses parents, qui reconnaît que la vie n'est pas facile, etc. Mais qui fait son travail, qui se pose plus de questions. Il est déjà assez fier d'être agriculteur. Et voilà. Et puis, évidemment, il y a ceux de la révolution agricole, bio, agriculture modérée, pensée, réfléchie. Voilà un petit peu ces trois mondes qui se confrontent. Alors, c'est vraiment donc un peu Pierre Webern qui va à la rencontre de ces gens, qui va aller mettre les mains dans la terre pour voir que la conclusion, c'est un peu que la terre, ça vit et que les légumes viennent de quelque part. Il y a des lombriques. Bref, voilà. Cependant, je trouvais que justement ce discours-là, ce discours sur l'agriculture, était un peu court. Alors, il se justifie, Pierre Webern, en disant « je ne me sens pas légitime pour dire ça ». C'était vraiment une vraie découverte et c'était ma rencontre avec le milieu agricole qui comptait, plus que moi de donner des grands enseignements un petit peu sur l'agriculture aujourd'hui. Le problème, c'est que
pour un seul homme, c'est quand même un sujet. Il y en a plusieurs qui plongent pendant des années, qui ont les cheveux gris. Hein.
Voilà.
On peut comprendre son point de vue, mais est-ce que le spectacle est étonnant à suivre? Parce que c'est aussi quand même un comédien qui y va, qui donne de sa personne.
Alors, encore plus que les deux précédents, je trouve qu'il est vraiment fait le choix d'un stand-up. Donc, pas de décor, juste lui, debout, qui fait ses petites scénettes, comme ça. Alors, il raconte aussi comment le milieu gay rencontre aussi le milieu de l'agriculture, aussi il y a l'histoire d'un ami qui intervient lors d'une rencontre.
Il y a des
tabous des deux côtés, en fait. On s'en rend vite compte. Alors voilà, moi ma réserve, c'est quand même sur les questions qui sont vite un peu évacuées sur la question de l'agriculture, ou alors on donne rapidement des réponses un peu déjà entendues et consensuelles. Maintenant, c'est un spectacle, j'en ai parlé un petit peu avec Olivier Blin, après, ça a l'ambition d'aller tourner dans les fermes, mais plus d'aller à la rencontre du milieu agricole qu'à la rencontre du milieu citadin, puisque c'est vraiment le citadin qui débarque dans le milieu agricole, et d'aller voir. Donc,
finalement, le projet s'est presque inversé. En fait,
mais hein. Oui, et voilà. Donc, moi, j'ai l'impression que ce que nous explique Pierre Webern dans cette pièce, c'est tout ce qui lui a traversé l'esprit au cours de la construction de ce spectacle qui s'appelle donc Homme de terre, du côté de la Samaritaine.
Comme pomme de terre, mais est-ce que c'est drôle?
Oui, c'est drôle. Il y a des trucs. Bon, parfois, c'est un peu gros pour moi, mais en tout cas, je trouve qu'il y a quand même. Il a toujours l'art d'imiter les gens. Ouais. Et voilà. Donc, c'est ça qui vaut le coup.
On en ressort avec la banane.
On peut souligner peut-être que sur le même sujet, il faut aller voir absolument Nourrir l'humanité.
Mais oui, voilà. Ouais.
J'allais te poser une question à ce propos, Nico, et me dire, mais voilà, c'est un peu la mode.
C'est difficile. Oui, alors c'était difficile parce qu'inévitablement, quand on se.
Oui. C'est un fils d'agriculteur.
Voilà. Inévitablement, on va aller comparer si on a vu les deux spectacles, mais finalement, les buts des deux spectacles ne sont pas les mêmes. Donc, ce serait injuste d'aller comparer aussi ces spectacles. Si on veut aller voir un propos vrai sur l'agriculture et sur son avenir, on va voir Nourrir l'humanité. Si on veut aller rire sur la rencontre de deux mondes, agricole et citadin, eh bien on va aller voir Homme de terre. Voilà ce que je dis simplement. Le spectacle d'Homme de terre était, je le répète, un peu court sur les arguments, mais voilà, Pierre Webern a l'honnêteté de ne pas aller plus loin et d'aller donner des leçons. Voilà. C'est un spectacle tout court, à peine une heure, et ça se passe donc du côté de la Samaritaine jusqu'au 1er novembre, et puis ça tournera dans les fermes en Hainaut, me dit-on, avant de tourner ailleurs également. www.lasamaritaine.be. Allez, en 2-3 minutes, Catherine, on va faire le tour un petit peu de ce palmarès des prix de la critique qui ont été remis lundi soir par le jury, on ne va pas s'en cacher, dont nous faisons partie, jury de la presse, avec le meilleur spectacle, commençons directement, c'est Moni de Françoise Bloch et de son zoothéâtre qui l'ont remporté. un spectacle qui a vite fait l'unanimité et que l'on pourra revoir prochainement. Et tu revenais notamment dans ton article qui est paru dans Le Soir sur une espèce de constante dans ce palmarès de cette année, c'est sur les prix féminins plutôt.
Ah bah oui, là on peut dire qu'il y a une constance quand même, puisqu'on retrouve des femmes quasiment partout, en spectacle, mise en scène, auteur, découverte, seule en scène, dans ces jeunes publics, c'est sans doute révélateur d'une évolution sur les scènes belges francophones, et on peut s'en réjouir je pense. Les femmes se font une place plus seulement comme comédiennes, mais aussi comme metteuses en scène, comme auteurs, et ça porte ses fruits et c'est réjouissant.
Est-ce que tu as des choses à pointer plus particulièrement? Évidemment, des spectacles qui vont revenir, on parlait de Moni, donc cet espace de un espace d'expression un petit peu sur la crise financière, un moment partagé, ludique et aussi pédagogique.
Mais critique aussi.
Et critique aussi, évidemment, sur la crise financière et le monde bancaire.
Oui, mais ce qui est intéressant pour faire le lien avec Homme de Terre, c'est que c'est elle qui a commencé avant tout le monde à faire cette technique d'imitation du réel, comme le fait Pierre Webern, mais elle le fait dans le monde de l'entreprise, dans le monde du grand capital. Elle observe les gens et puis elle en tire quelque chose sur scène, mais tout en le décalant, avec une vidéo aussi tout le temps qui apporte un contrepoint différent, et puis oui, une critique acerbe de la déshumanisation du monde du travail aujourd'hui. Pour moi, Moni, c'est l'aboutissement d'une méthode, la méthode de Françoise Bloch, qu'elle a commencé avec Grow or Go, qu'elle a continué avec une société de services, et puis ça va encore en s'améliorant avec Moni, et Moni, il faut le voir absolument, quoi. C'est le gros coup de cœur de la saison dernière.
Et ce sera de retour au mois de novembre du côté du Théâtre National. Également, dans les spectacles à voir, il y aura Silence, on n'a plus le temps vraiment d'en dire beaucoup, mais c'est vraiment un beau spectacle sur la vieillesse à découvrir avec des marionnettes plus vraies que nature du Nightshop Théâtre. Ce sera aussi à revoir et c'est en tournée partout. Et évidemment, on vous renvoie vers le site des Prix de la Critique pour tout le palmarès, www.lesprixdelacritique.be. Désolé, on est un petit peu court. Merci Catherine d'avoir été avec nous pour parler de ces prix et des autres spectacles. À la semaine prochaine.
Oui.
Et merci Elisabeth et Sophie également. La conspiration des planches. À la semaine prochaine, bonne planche à tous. Pour d'autres spectacles, on se retrouve mercredi. La conspiration.